16h-18h, Braise au pluriel.
Le président de cette société d'études, société savante, est avec nous, c'est Yves Coitivi. Bonjour Yves Coitivi.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans notre studio pour nous présenter ce nouveau numéro. Mais au-delà aussi, on va faire la connaissance de votre société savante qui existe depuis plus de 60 ans.
Oui, depuis 1954, en fait, la société d'études est née du traumatisme de la guerre. Une ville dévastée, rasée par les bombardements, par le siège, qui a été catastrophique. Et donc, dès le lendemain de la guerre, des Brestois se penchent sur leur passé et donc se réunissent autour des cahiers d'Iroise et de la société d'études pour travailler sur l'histoire de Brest. Donc, une histoire d'avant-guerre, une histoire ancienne et plus récente, mais donc on a des passionnés qui s'organisent tant bien que mal, qui organisent des expositions, des conférences et qui proposent donc les cahiers à raison d'un cahier tous les trimestres. Mmh. Ce sont des cahiers qui font entre 60 et 80 pages au début, et donc qui prennent ou non des thèmes et qui évoquent la vie du Vieux-Brest et du Léon et plus largement de la Bretagne.
Alors ce sont des intellectuels, des universitaires qui se réunissent pour produire, écrire... Pas seulement des intellectuels universitaires.
Non, pas que. Il y a aussi des amateurs éclairés, des passionnés. On a beaucoup il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par l'histoire de leur ville, qui font un travail très sérieux, un travail de recherche à la fois bibliographique et sur archives, et qui le font très très bien. Et donc c'est un peu la petite musique des cahiers dans le monde des sociétés savantes bretonnes d'avoir des amateurs éclairés qui écrivent des textes tout à fait solides et une grande variété de signatures. On a actuellement, mais c'était déjà le cas autrefois, un thème fédérateur et ensuite des auteurs nous apportent des textes. Mmh. Et le thème fédère l'ensemble, mais il y a des textes de 2 pages, il y a des textes de 30 pages, il y a des choses très sérieuses et des choses anecdotiques. C'est une spécialité de la société d'études et des cahiers.
De grands noms sont venus rejoindre cette société depuis son existence. Bernard Clavel, Maurice Druon, Pierre-Jacques Essélias.
Oui, tout à fait. Oui, on a eu des grands auteurs, peut-être un petit peu moins maintenant. On a eu aussi des grands illustrateurs, Pierre Perron, Jim Sévelec, et puis des tas d'autres. Non, c'est une société qui rayonne bien, mais qui tend plutôt actuellement à se resserrer plus autour de l'histoire, alors qu'à une époque, elle offrait peut-être plus de place à la littérature ou encore à la poésie.
Et alors, vous, en tant que président de cette société, vous réunissez avec les sociétaires et vous produisez donc ces cahiers de l'Iroise. On en est au numéro 228. Alors, avant de parler du béton et de Brest, on a beaucoup à dire. Il reste des choses à dire sur en arrivant au 228e épisode. Il reste des choses à dire.
Oui, plein. Alors il reste des tas de choses à dire parce que toutes les archives n'ont pas été explorées, tous les thèmes n'ont pas été explorés. Et par exemple, on a pris l'habitude depuis quelque temps de proposer une petite rubrique qui s'appelle Autour du thème pour inviter les gens qui s'intéressent aux thèmes traités par les cahiers à se pencher sur d'anciens articles parus dans d'anciens cahiers. Bon, et ben par exemple, il n'y a pas de Autour du thème sur le béton parce que il n'y avait rien d'écrit sur le béton à Brest, parce que ça n'avait pas intéressé les anciennes équipes de traiter ce sujet. Donc typiquement on est sur des créneaux qui sont nouveaux. Alors après il y a des créneaux des thèmes, des sujets qui ont été traités beaucoup plus largement. Par exemple, le prochain cahier portera sur les îles. Il y a déjà eu plusieurs cahiers d'Iroise qui ont parlé des îles bretonnes, des îles du Ponant, des îles bretonnes, mais il y a toujours des choses à dire et il y a toujours un renouvellement de la recherche, des nouveaux auteurs, des nouvelles façons d'aborder les choses.
Et c'est ça qui doit être aussi justement intéressant, par exemple je pense au cahier sur les îles, puisque là il y en a eu d'autres, de comparer le point de vue et comment on vit aujourd'hui dans les îles, comment du continent on regarde les îles entre aujourd'hui et les années 60, ça va être totalement différent.
Tout à fait, il y a des très grandes variétés, et puis des façons d'écrire aussi, la façon d'écrire n'est plus la même à une époque, vous aviez des auteurs qui écrivaient magistralement mais plus de façon plus emphatique et plus romancée, maintenant c'est plus sérieux, sans doute peut-être plus scientifique. Qu'on a sans doute perdu en poésie, mais les textes restent solides et il y a quand même du renouvellement à apporter.
Et le béton, ça a du bon. Est-ce que l'idée de ce sujet vous est venue, bon, non seulement parce que ça n'avait jamais été traité, mais aussi parce que la ville de Brest a eu la labellisation ville d'art et d'histoire en ce début de 2018?
Oui, alors c'est un phénomène complexe, la genèse de ce cahier. En effet, le label ville d'art et d'histoire nous a amené à collé à l'actualité à d'autres façons. C'est d'ailleurs à publier un texte, des textes qui intéresseraient ceux qui, par ailleurs, se sentent concernés par cette labellisation de la ville de Brest. Donc ça, c'était un petit peu la raison de l'édition maintenant du cahier. Mais donc il y avait le fait que le sujet n'avait pas été traité non plus. C'est parti d'une boutade, en fait. C'est parti d'une réflexion idiote. Moi, je voulais l'appeler au début « Dans le béton, tout est bon ». Référence, bon. Et pas forcément d'un du meilleur goût, mais
on comprend la référence bien bretonne.
On n'était peut-être pas très malin. Mais donc, il fallait apporter du neuf et puis peut-être éclairer aussi un sujet alors qui n'a pas été traité parce que le Brest d'autrefois était sans doute mythifié un petit peu. Et les fondateurs de la société d'études étaient fascinés par le Brest d'avant 1940, d'avant les bombardements. Et donc, ils ont négligé, ils ont sans doute un peu rejeté, comme certains Brestois, le Brest d'après-guerre. Et maintenant que la génération...
D'avant-guerre.
Et maintenant que la génération qui a connu le Brest d'avant-guerre est en train de passer, ça ouvre de nouveaux thèmes. Par exemple, on a vu fleurir les livres sur Brest en baraque. On a vu fleurir les livres sur la reconstruction ou les... Et donc, on a des possibilités comme ça de trouver de nouveaux sujets qui intéressent la génération qui, elle, n'a pas forcément connu la guerre, mais a vécu dans les baraques, a assisté à la construction, à la reconstruction de Brest, et par exemple, a pu vivre dans des immeubles qui avaient été construits dans les années 50, 60, et à qui, finalement, le béton, ça parle. Et puis, on a aussi tous les Brestois, et qui se promènent, ou et non Brestois, d'ailleurs, qui se promènent dans la ville, et qui veulent une réponse à des questions qui effraissinaient, pourquoi tel immeuble a cette forme curieuse, paquebot, de quand est-ce que ça date, pourquoi l'église Saint-Louis est-elle aussi étonnante, est-ce que ça date d'avant-guerre, d'après-guerre, etc. Donc il fallait apporter quelque chose, et là, on occupe finalement un terrain sur lequel il y avait assez peu de choses décrites, en dehors des travaux très savants, comme par exemple ceux de Daniel Le Quénic, qui a d'ailleurs participé au cahier pour une synthèse magistrale sur le sujet.
Yves Coitivi est notre invité cet après-midi dans Braise au pluriel pour parler de ce 228e épisode des Cahiers de l'Iroise. Le béton, ça a du bon, un sujet passionnant.
France Bleu Braise Isel, tous les jours avec vous. 16h-18h, Braise au pluriel.
Et dans cette émission culturelle sur France Bleu, Braise Isel, on parle des Cahiers de l'Iroise, cette revue atypique qui associe des articles exhaustifs et des notes moins approfondies parfois, des recherches pointues sur tel ou tel point historique ou linguistique. Et là, on s'intéresse à l'histoire du béton à Brest. Notre invité est Yves Coitivi, président de la Société d'études du Brest et du Léon, qui édite ses cahiers de l'Iroise, et le numéro 228 s'intitule « Le béton, ça a du bon ». L'occasion de parler de Brest, qui est trop souvent décrite comme une ville du béton, assimilée d'une certaine façon aux grands ensembles, construits dans les années 50 à 70 pour pallier à la crise du logement. Et Yves Coitivi, première découverte en feuilletant les cahiers de l'Iroise, ce numéro, eh bien, Brest ne doit pas tout son béton à l'après-guerre.
On a commencé à construire les premiers édifices. Alors les puristes diront que c'est pas tout à fait du béton, c'est pas du béton armé, mais c'est quand même du béton moulé. Par exemple, l'église de Saint-Marc, qui date des années 1865-1870. Et puis on a une deuxième vague de construction de béton à Brest dans l'entre-deux-guerres, où on construit des bâtiments, beaucoup d'immeubles, dont certains sont encore datés d'ailleurs de la fin des années 30, ou bien l'hôpital, la gare.
On passe souvent
devant la gare en pensant que c'est un édifice de la reconstruction, mais non, c'est un édifice antérieur à la guerre qui a été sinistré, mais qui a été restauré en partie. Donc on a du béton de l'entre-deux-guerres, on a aussi du béton de la Seconde Guerre mondiale, mais on ne l'a pas évoqué, ça s'est pas trouvé, le béton des blocos, de la base sous-marine, etc. Mmh. Et puis, en effet, quand même, c'est le matériau qui est largement utilisé dans la reconstruction de Brest après 1945, ça c'est clair, on voit surgir ces immeubles, parce que le béton est pratique. Et puis, ça se construit assez vite, assez facilement. Et quand on compare les immeubles d'avant-guerre et les immeubles d'après-guerre, malgré une impression qui peut être fausse, les conditions de vie étaient sans doute meilleures dans les nouveaux immeubles construits après la libération qu'avant.
Mais il y a une nostalgie parce que déjà le fait que ce soit la guerre qui ait détruit l'ancien Brest, déjà c'est traumatisant. Donc forcément, on fantasme aussi sur cet ancien Brest, moi qu'on m'a toujours décrit comme une ville magnifique faite de pierre et de pavés.
Certainement. Alors on fantasme en effet parce que bon, la ville était faite de pierre et de pavés, elle avait ses beaux remparts, un point de vue, etc. Mais elle était aussi des rues droites, très étroites. C'était déjà une ville caserne qui devait être assez sombre et finalement, il est probable que la ville s'est éclaircie avec la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, les rues se sont élargies. Brest, ville grise, ville du granit et du carcenton, est devenue Brest-la-Blanche, même si le blanc est parfois un peu gris, mais on a quand même une transformation importante de la ville.
Et donc, grâce à cet ouvrage, on retrace voilà l'histoire du béton, comme vous venez de le faire, et c'est pourquoi aussi on retrouve dans le béton l'art nouveau, l'art déco, et toute cette succession de styles architecturaux qui se sont succédés au fil des décennies.
Tout à fait. On a des grands architectes. On a un article sur les Fraissinets là qui ont joué un rôle important. Il y a deux immeubles magnifiques à Brest qui ont été construits par les Fraissinets et qui je dis les parce qu'il y en a eu au moins deux, Eugène et son fils. Et on a des immeubles absolument superbes. Alors on passe devant sans les voir, mais du côté du boulevard Gambetta, par exemple. Pour les choses absolument magnifiques. Il y a une très belle architecture en béton. On peut aussi évoquer l'église Saint-Louis. Le sujet a été traité par Yann Selton, et qui est du béton habillé, caché par des dalles de pierre de l'Ogonat, mais qui est d'une belle structure en béton, avec une acoustique qui en souffre peut-être un peu.
Donc ça s'est construit dans les années 50, hein, 55 à, voilà, à 58. Mais c'est pareil, les gens fantasment aussi l'ancienne église. Il y a toujours cette idée que le béton, voilà, ça valait pas la vieille pierre.
Tout à fait. Alors en plus, ce qui est dommage, c'est qu'on aurait sans doute pu garder l'ancienne église Saint-Louis qui avait été incendiée. Elle n'a pas été bombardée, mais incendiée. Et les murs étaient encore debout après la Seconde Guerre mondiale. Et puis Maton, l'urbaniste qui a reconstruit Brest, a décidé de faire du passé table rase, et donc il a nivelé. Mais ce que peu de Brestois savent, en tout cas, c'est que sous l'église de Saint-Louis, on a le parvis de l'ancienne église qui est conservée. Il y a une grande crypte qui peut abriter des milliers de personnes, alors qui n'est pas ouverte au public, mais et dans laquelle on a encore l'arrière de l'entrée de l'ancienne église Saint-Louis, conservée en pierre sur 3-4 mètres de hauteur. C'est assez spectaculaire.
Ah oui, c'est même étonnant que personne, enfin que le public ne soit pas au courant ou que ce soit pas utilisé, pour des raisons de sécurité peut-être.
Voilà, exactement, c'est des raisons de sécurité, c'est encore un peu rustique, le sol n'a pas été refait depuis la reconstruction, etc., mais c'est un endroit assez, assez étonnant.
Alors dans votre revue, on trouve justement des architectes et des professeurs de l'UBO, je pense à Daniel Lequédic, qui m'avait fait visiter déjà Brest pour France Bleu Brésil, et m'avait appris à redécouvrir cette ville, donc son article s'intitule Brest et le béton, un couple à disculper. Donc on est bien dans le sujet que nous sommes en train d'aborder ensemble, Yves Quatévi. Et puis différents articles d'autres contributeurs. On parle du triple paquebot de béton, l'hôpital Augustin Morvan, qui est, c'est vrai, un sacré lieu, une ville dans la ville.
Oui, un chantier de longue durée, commencé avant la guerre, poursuivi pendant et après la guerre. Et là, typiquement, on a ce béton transpériode. Et ce bâtiment qui a été conçu selon un principe qui n'était plus vraiment d'actualité à ce moment-là, pour des raisons essentiellement politiques sans doute. Un projet a été retoqué parce qu'il était porté par un nationaliste breton qui portait un hôpital monobloc, et donc a été retenu cet hôpital à pavillon. Un autre projet
avec beaucoup de courbes,
avec des
très féminin, comme on dirait presque.
C'est vrai qu'on a ces tours d'angle, c'est une petite architecture château fort. C'est superbe vue d'avion. Il y a une très belle structure, une très belle symétrie.
Très belle photo justement aussi dans votre magazine. Bah si, c'est vrai, il faut le dire, parce qu'on n'a pas l'occasion de voler au-dessus de Brest. Alors une photo, C'est
vrai. Et la photographie, d'ailleurs, améliore le béton. En prenant un peu de recul, avec une bonne lumière, un bon éclairage, on ne voit plus le béton de la même façon.
Et alors, le Brest d'aujourd'hui aussi continue dans le béton. Hein. Je pense aussi au plateau des Capucins, où le béton est visible. On laisse maintenant le béton à nu. Ça fait partie de l'esthétique.
Oui. Alors, il y a des bétons qui sont à nu, qui auraient dû être cachés. Je pense aux colonnes de l'église Saint-Louis, qui auraient dû être recouvertes par du marbre cipolin. Puis finalement, il n'y avait plus les moyens de le faire, donc on les a laissés à nu. Et puis, comme vous le dites très bien, très justement, il y a du béton qu'on garde tel que. Alors, éventuellement, on le lave, ou on fait apparaître des paillettes, ou on le rainure de façon à lui donner un peu de relief, à accrocher la lumière, mais ça reste c'est devenu, avec le temps, c'est pas récent, c'est devenu un matériau noble au même titre que les autres matériaux de construction.
Si vous aimez Brest, si vous aimez l'architecture, si vous avez peut-être envie de vous mettre à aimer le béton, bah oui, à le regarder différemment, parce qu'il y en a un petit peu partout, alors pas toujours bien utilisé, mais encore, peut-être qu'il faut savoir le regarder. Je pense à l'auberge de jeunesse du Moulin Blanc aussi, qui est vraiment magnifique aussi dans son style. Il y a des lieux comme ça, un peu cachés, parce que l'auberge du Moulin Blanc, il faut aller chercher derrière la végétation parfois pour voir
l'architecture. Oui, elle est dans un cadre absolument enchanteur, derrière des rideaux de végétation, dans un jardin très calme, juste les pieds dans l'eau à côté du port du Moulin Blanc, et le bâtiment est remarquable et considéré comme remarquable par les architectes. C'est vraiment un monument qui fait date, et très peu de Brestois le connaissent, pas assez de Brestois le connaissent. Je pense qu'il y a plus de jeunes étrangers à venir faire de la voile et de la planche à Brest à le connaître que les Brestois de souche.
Brestois et amis auditeurs, je vous invite à acheter peut-être pour la première fois et à découvrir ces cahiers de Liroise numéro 228. Le béton, ça a du bon pour apprendre à vous promener à Brest d'une nouvelle manière. Merci beaucoup Yves Coitivi. Je rappelle que vous êtes président de la Société d'études de Brest et du Léon qui édite cette revue depuis plus d'un demi-siècle. Merci à vous.
Merci.